Charles Potier, développeur 3D pour le cinéma.
Lorsqu'on regarde un film sur un grand écran, on est absorbé par l'histoire ou l'action et l'on se pose rarement la question comment ces images ou cette scène ont-elles été réalisées. Pourtant, des centaines de personnes et des métiers très différents ont travaillé en amont pour nous offrir ce résultat. Ils sont scénaristes, artistes 3D, acteurs, réalisateurs, monteurs, preneurs et monteurs son, maquilleurs, costumiers, etc. Tous ont travaillé durant 2 ou 3 ans pour que le film soit visible en salle. Et si l'on a souvent Hollywood en tête en pensant au 7e art, les professionnels français n'ont rien à envier à leurs homologues américains. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux Français s'expatrient à l'étranger où leur savoir-faire est très recherché. Habitué des studios de cinéma et de passage à Sisteron pour raisons professionnelles, Charles Potier a accepté de répondre aux questions de Julie Carrier sur son métier de développeur d'outils pour la 3D.
Un développeur 3D, c'est une personne qui programme des outils en plus, généralement sur des logiciels qui existent déjà, de façon à coller au désir du réalisateur. Par exemple, il existe pas mal de logiciels de 3D déjà, dans les plus connus, 3DS Max ou Blender. Même si il existe énormément de possibilités, chacun des studios travaille d'une certaine manière et il y a énormément de cas en 3D qui ne sont solvables que par de nouveaux programmes ou de nouvelles façons de travailler en créant de nouveaux outils.
Et c'est-à-dire, vous pouvez nous citer un exemple d'outils qu'on utilise fréquemment dans les studios pour créer des films 3D?
Dans les outils les plus connus, qui sont très rigolos, c'est tout ce qu'on appelle collision, déformation, c'est-à-dire qu'on lâche un gros paquet de cubes ou de dominos, et les dominos ils vont tomber tout seuls et réagir tout seuls en fonction de contraintes réelles ou pas réelles. Et ça, c'est programmé à la main.
Et on s'en sert, par exemple, dans les films avec des grandes batailles ou des choses comme ça?
Alors, dans les grandes batailles, justement, parce que j'ai eu la chance de travailler sur Avatar, j'ai été pris un an pour travailler que sur quelques plans. Il y a deux manières. C'est où on demande à 100 personnes d'animer une bataille, ou quelqu'un trouve une solution pour programmer le fait que tout le monde va prendre son épée en même temps ou tout le monde va tomber en même temps. C'est beaucoup plus rapide de le programmer que demander à 100 animateurs de le faire.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier?
J'ai commencé en 2005 à Paris, dans un studio français. On oublie toujours de dire que les Français sont très bons, très doués et très demandés dans le monde, et que c'est plus un problème de diffusion ou d'organisation, hélas, à la française. Ce qu'on appelle French Touch, c'est particulier. Les Français sont vraiment très bons.
Les studios français n'ont pas forcément grand-chose à envier aux studios américains ou anglais?
On n'a rien à envier. Par exemple, l'avant-dernier studio dans lequel j'ai eu la chance d'être, c'est le studio qui a fait Comme des Bêtes. Et c'est un studio français, mais quand on le voit, on a l'impression que c'est un studio américain. Il appartient à des Américains, mais c'est que des Français, c'est basé à Paris. Et il y avait 800 personnes.
Sur quel film avez-vous travaillé?
Donc j'ai eu la chance de bosser sur Avatar, Tintin, Pourquoi j'ai mangé mon père, Comme des Bêtes donc. Et je viens de terminer des outils pour le prochain film minuscule que je conseille à tout le monde, c'est génial. Avec des insectes, il n'y a pas de violence et c'est tourné en prise de vue réelle. Et les insectes sont en 3D. Le 2 va sortir l'année prochaine. Et pareil, c'est un film français.
C'est quoi une prise de vue réelle quand on fait de la 3D?
On est un peu bizarre, prise de vue réelle. Pour nous, c'est le cinéma. Donc là, c'est des insectes en 3D, incrustés dans des décors. D'ailleurs, il y a une partie qui se passe dans votre région ou pas loin, et l'autre partie, je ne peux pas le dire.
Vous incrustez des insectes en 3D dans un décor réel?
Voilà, exactement.
Comment avez-vous choisi cette voie? Est-ce que ça a été difficile?
Beaucoup de chance. Et aussi, autre chose, c'est que je fais partie des premières générations. Donc je suis passé par la bande dessinée, et à l'époque, la 3D n'existait pas, donc je fais partie de la 3e promo en France de personnes qui font de la 3D, parce que ça n'existait pas, ce qui fait que c'était beaucoup plus simple, et c'est aussi en ça que j'ai eu de la chance. Maintenant c'est beaucoup plus dur parce que hélas les écoles coûtent très très cher, tout le monde veut en faire et c'est beaucoup plus compliqué.
Puisqu'on parle de ça, à quoi doivent s'attendre les jeunes qui voudraient suivre votre parcours? Quel avenir pour eux dans ce métier-là?
Il y a énormément de corps de métier qui sont différents. Par contre, je tiens à signaler qu'il y a très peu de postes qui sont réellement créatifs dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je me disais oui, bon, la 3D, on peut faire ce qu'on veut, etc. Effectivement, on peut faire ce qu'on veut avec des petites équipes ou tout seul. Mais à partir du moment où c'est des plus gros films, faut mieux travailler de manière collaborative avec plein de personnes. Et ce qui fait que dans les métiers dont on rêvait gamin ou jeune, c'est pas forcément le métier que tu vas avoir plus tard. Moi, je pensais plutôt être un jour dans la créa et je me retrouve à coder et je suis bien content parce que du coup, j'aide des personnes qui sont créatives. Mais il y a énormément de métiers techniques.
Quelles sont les étapes de fabrication d'un film?
Je tiens d'abord à signaler que je suis dans la région parce que j'ai rencontré quelqu'un avec lequel on a une idée un petit peu saugrenue d'inventer justement un outil pour aider à la préparation d'un film et un outil open source gratuit. Parce que l'organisation d'un film en 3D, c'est très compliqué, parce qu'il y a énormément d'éléments. Par exemple, on va dire votre studio, vous avez des chaises, des tables, des posters, des pièces, etc., une machine à café. Au total, on va dire qu'il y a au minimum 5000 éléments à modéliser, à fabriquer. Et après, c'est toujours le même problème, c'est qui fait quoi, à quel moment il en est, et est-ce que ce qui a été fait est fini ou en cours, etc. Et les étapes, pour faire simple, on va partir d'une machine à café. Il y a quelqu'un qui dessine la machine à café, il y a quelqu'un qui met les textures, il y a quelqu'un qui la met au bon endroit, il y a quelqu'un qui fait les éclairages. Et éventuellement, si l'histoire, c'est la machine à café tombe sur les pieds du patron, eh ben, il y a quelqu'un qui anime la machine à café qui tombe sur les pieds du patron. Et c'est ce qu'on appelle des étapes. Quand on est tout seul, c'est assez compliqué, mais à plus de trois, il faut mieux un outil pour savoir qui fait quoi. En gros, ce sont des outils pour savoir qui fait quoi à quel moment.
Niveau fabrication d'un film, alors ça part d'une idée. Mm-hmm. Ensuite, il y a un scénario qui est monté.
Oui, un scénario qui est monté. Et après, il y a une prévisualisation du film, ce qu'on appelle en général le storyboard ou le découpage technique. Là, faut reconnaître que les anglo-saxons sont vraiment meilleurs que les français dans le sens où, bon après c'est une histoire de moyens, mais ils sont capables de passer 2 ans sur un film avant de commencer. Alors que le cinéma français marche bien en termes de production, les délais sont plus courts, ce qui fait que les français ont plutôt tendance à commencer tout de suite.
Charles, ça fait quoi de voir un film sur lequel on a travaillé passer à l'écran ?
La première fois, c'est un rêve de gamin. Maintenant, je suis content, mais je suis surtout content quand le film plaît. Et je pense surtout à quand j'étais minot, à quand je regardais les Tex Avery. Et je me dis que c'est mon tour de faire rêver avec les copains et les équipes. Je pense toujours aux gamins, parce que je pense à moi quand je regardais Droopy, Bip Bip.
Quelle autre utilisation peut-on faire de la 3D, Charles ?
Alors la première, qui est la plus connue, c'est tout ce qui est industrie, modéliser des voitures, simuler des crash tests, etc. Mais pour moi, c'est de la création. Un projet qui me tient à cœur. Reconstituer le patrimoine historique d'un village. C'est, par exemple, on part du Moyen-Âge jusqu'à nos jours et on reconstitue en 3D ce qu'était le lieu au cours du temps, au fil du temps, et on essaye d'imaginer comment vivaient les personnes, comment était organisée la cité. Et surtout que maintenant, il faut reconnaître que la réalité virtuelle, en dehors du jeu, aurait une autre utilité tout aussi intéressante.
Mais d'autant plus que ça pourrait être appliqué dans les écoles ou les collèges.
Exactement. Donc là, ça a pris avec les musées, mais je suis un passionné d'histoire et j'ai hâte un jour de me plonger dans l'histoire de Carcassonne ou ce que j'appelle la bergerie de Sisteron, mais j'ai cru comprendre que c'était pas une bergerie.
C'est une citadelle.
Voilà.